Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous partageons nos photos. Chaque jour, rien qu'en Europe, 638 millions de clichés sont pris au smartphone. Les 7 milliards de voisins prennent de plus en plus de photos dans le monde en les regardant de moins en moins. Alors que faire de cet océan d'images et de moments vécus? Nous allons en discuter avec Christine Olivucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste transgénérationnel. Vous aidez les gens à relire leur histoire personnelle, mais à l'aide de leurs photos de famille, enfin quand ils en ont. Vous avez publié ces photos qui nous parlent aux éditions Paillot Rivage. Vous avez aussi écrit sur les photos de nos lieux de vie, d'autant plus importants quand on a beaucoup voyagé, vécu dans des pays différents, dans des cultures différentes. Nous serons également en ligne avec un jeune photographe béninois. La particularité de Yannick Folly, c'est qu'il n'a jamais vu de photo de lui enfant. Aujourd'hui, il photographie justement l'enfance sur le continent africain. Et quant à vous, les voisins et les voisines, que faites-vous de vos photos tellement nombreuses aujourd'hui? Que représentent-elles dans la construction de votre identité, de votre histoire personnelle? Peut-on parler de soi avec des photos? Et en fin d'émission, on donnera la parole à l'Afrique qui gagne. Ils sont entrepreneurs, influenceurs ou simples citoyens. Ils mettent leur savoir-faire et leurs compétences au service du continent. Et aujourd'hui, on aura le portrait de Noëlla Mouamirizia, qui fait partie du réseau mondial des filles ambassadrices pour la paix. Alors j'avais dit que j'allais lire, bien sûr, vos messages qui sont postés sur nos réseaux sociaux concernant notre sujet du jour, les photos. Kevin est congolais en RDC. Il nous dit qu'avec l'évolution de la science, il n'y a pas d'intérêt à stocker ses photos dans ses placard et il nous dit qu'il aime les conserver tout simplement sur son smartphone, d'autant que si je les perds, il est facile de les retrouver puisque je les ai publiées sur mon compte Facebook. Et tout le monde sait qu'on ne perd rien sur Facebook. Voilà, donc il télécharge tout. Une voisine en Haïti nous dit que pour les photos qu'elle aime le plus, elle fait faire un tirage, elle les encadre et elle les met sur le mur de sa chambre. Voilà, il y a les virtuels, il y a les fétichistes, mais dans le fond, ça questionne notre relation à l'image de nos vies.
RFI, la radio du monde, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Goma, à l'est de la RDC, République démocratique du Congo. Bonjour Guillaume.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins du monde.
Vous avez quel âge Guillaume?
En fait, j'ai 25 ans.
J'ai été étonné quand j'ai vu votre message, 25 ans, et vous adorez vous replonger dans les vieux albums de famille.
En fait, je suis un peu déjà sentimental et conservateur, alors c'est pas que je ne me fais pas de photos en smartphone, mais j'aime cette façon-là de conserver mes photos, mes albums photos.
C'est-à-dire que vous-même, vous faites des albums photos ou c'est votre famille qui s'en est chargée quand vous étiez petit?
En fait, ce sont des photos qui ont été prises pendant ma tendre enfance, surtout lors des grands événements comme ma naissance, mon baptême, surtout à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ma famille avait l'habitude de prendre ces photos. On appelle un photographe professionnel, une femme de photos.
Ah oui, carrément le photographe professionnel.
Oui, le photographe professionnel. Mm.
Et que vous évoquent ces photos, ces albums, quand vous les regardez?
En fait, moi, j'ai toujours voulu garder mes souvenirs d'enfance, surtout pendant à l'époque de ma tendre enfance. Ce sont des photos qui me tirent tant. Des contacts humains avec mon passé à travers des photos, ça me réconfortifie, ça me donne encore un certain sentiment de joie de voir comment est-ce que j'ai pu évoluer, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus vraiment il y a une certaine raréfaction de ces photographes traditionnels avec appareil Yashica. Mm. Alors, je trouve qu'avec ces albums conservés dans l'album des familles, je me trouve replongé dans mon passé.
Mmh. Vous êtes un nostalgique, Guillaume, en somme.
Vraiment.
Merci de nous avoir appelé, Guillaume. Michel nous appelle de Kisangani, également en République démocratique du Congo. Bonjour, Michel.
Bonjour, Emmanuel.
Vous n'êtes pas vous-même photographe?
Moi aussi, j'ai fait des photos. Et ce n'est pas la photo finale en elle-même qui m'impressionne. Sinon, je vais sur Google, je vois mes images.
Oui.
Dès lors que je pars. Mais ce qui me motive, c'est pas une photo qui m'implore. Parce que la vraie photo, je trouve qu'il y a une passion artistique, voire une quête qui consiste à répondre à des questions comme avec qui j'ai fait cette photo, c'était à quel événement, c'était où, c'était comment, avec qui. Donc ça, je m'amuse et je me plonge dans la réalité, je vois l'événement en face.
Ah oui, vous revivez les instants en voyant les photos finalement, complètement.
Hein. Ah oui, je me plonge dans la réalité, je vois l'événement réel.
Merci de nous avoir appelé, Michel. C'est tout de même intéressant aujourd'hui d'entendre des jeunes, Christine Ulivucci, qui sont soit nostalgiques ou en tout cas retrouvent un intérêt avec de la photo développée.
Oui, alors bon, la photo de manière générale, c'est quand même très lié à la mémoire. C'est un vecteur de mémoire de sa propre histoire et de l'histoire familiale. Bon, moi, je travaille beaucoup sur non seulement l'histoire individuelle avec les personnes que je reçois, mais leur histoire familiale. Donc ces photos qui sont apportées là, que les auditeurs évoquent aussi, qui sont des photos d'enfance là dans ce cas de figure, et des photos qui vont marquer des événements importants, ça va leur permettre de se replonger d'une certaine manière dans leur passé. Alors si le passé est plutôt agréable, là, j'entendais tendre enfance, évidemment c'est revenir un petit peu à la source, c'est aussi réveiller des sensations, c'est ce qu'on fait aussi dans un travail thérapeutique, ça permet de d'une certaine manière de reprendre contact avec ce passé de le revisiter.
Alors tout de suite, je vous propose un reportage chez une mamie photo, elle vit à Paris, Michel, 82 ans, elle est veuve depuis 14 ans et elle vit entourée de photos, de famille et de célébrités. Charlie Dupiot a feuilleté avec elle les albums de sa vie.
Alors voilà, on peut commencer ici. C'est ma chambre. Alors au mur, là, il y a nous, il y a mon mari et moi. Photo de mariage.
En noir et blanc.
Oh bah oui, 4 août 1960. C'est mignon, non?
Donc en fait, ça c'est votre mari. Bel homme.
Bien sûr.
Et là, il y a une photo d'Audrey Byrne.
Pour mes 80 ans, les enfants m'ont offert ça parce qu'ils savaient que j'aimais. J'ai tout un album sur les escaliers. J'ai un petit côté collectionneur. Ça m'a pris assez tard. J'ai la collectionnite aiguë, c'est clair. C'est une manière de dire à la mort, attends, j'ai pas fini.
Et là, on voit un escalier en pierre qui est recouvert par de l'herbe.
Oui, mais il monte sur rien.
En fait, des photos, il y en a dans toutes les pièces ici.
Là, voilà.
Là, on rentre dans le salon et là, on est assailli par les photos de toutes parts. Il y a des cadres sur tous les meubles. Vous avez quoi? Au moins une centaine de cadres, non?
Oui, peut-être plus.
Par exemple, sur ce meuble, sur cette petite table, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cadres, rien que sur cette petite table.
Oui, j'aime les cadres.
Ouais. Là, sur cette photo, on vous voit plus jeune.
Oui.
Et vous vous trouvez comment sur cette photo? Vous fermez les yeux?
Jolie, jolie. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Chez l'aîné des petits-fils qui souriait en plissant son nez.
Là, on a un de vos petits-fils qui rit.
Oui.
Vous aussi, vous lui donnez à manger, il est bébé.
Là, on s'amuse bien, là, tous les deux, c'est clair. Je la trouve magnifique, cette photo.
Et qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces photos où vous voyez vos petits-enfants tout jeunes?
Celle-là, quand j'ai besoin de sourire, je viens là. Celle-là, elle me fait sourire. Il rit plus comme ça maintenant. Il a vieilli, il a mûri.
Qu'est-ce que vous aimez prendre en photo?
Tout. J'ai même des photos d'objets. Des photos réalistes, des photos un peu brutales. Quand j'ai fait un séjour à l'hôpital et à la maison de repos, j'ai pris des photos de ma chambre de malade. J'ai une photo de mon déambulateur avec mes cannes anglaises. Mais je ne sais pas où aller. Je ne la trouve pas, mais j'ai fait cette photo. Ça, c'est le couloir. C'est un couloir de maison de repos, ça. Youpi, hein.
La photo est plutôt réussie. Hein.
Oui, la photo est bonne. On a tous été jeunes, beaux, vivants et élégants. C'est pour transmettre aux jeunes. Quand ils feuilleteront ça, ils verront leur grand-père. Ah, ça, c'est mes hommes, les beaux hommes, oui.
Attendez, alors ça, donc c'est un classeur.
C'est un classeur rouge, c'est les hommes.
Dans lequel vous avez des photos d'hommes.
Qui m'intéressent tout de même, hein. Bon, voilà.
Des photos d'hommes beaux.
D'hommes beaux, oui, mon mari. Et d'ailleurs, cette photo, elle est dans ma chambre. Hein.
Alors, les hommes beaux.
Ça, c'est un cousin, il n'est plus aussi beau. J'adore d'Ormesson, j'ai sa photo dans ma chambre.
Jean d'Ormesson, célèbre écrivain.
C'est un bon homme, hein. Oh, quel bonhomme. Et alors là, on arrive de chez des bons hommes où il n'y a rien à jeter. J'ai écrit, il n'y a rien à jeter.
Oui, c'est écrit sur un petit post-it.
Rien à jeter. Delon, vous savez qu'il a remercié sa mère pour sa beauté.
Ce sont des photos, en fait, que vous avez découpées dans des magazines.
Absolument. Comment il s'appelle, lui? Je ne sais plus. Clooney, Georges Clooney. Le grand séducteur, le café What Else. Il est vraiment très beau. Hein.
Et en fait, vous avez des photos de plein de choses différentes de votre vie, de vous, de votre famille. Si jamais vous perdiez certaines photos ou toutes vos photos, qu'est-ce que vous perdriez en fait ?
Je perdrais beaucoup. Je perdrais une partie de ma vie. Et en plus, elle prolonge la présence des gens. Moi, je leur parle à mes photos. J'ai une photo de ma sœur là-bas. Je passe pas devant sans lui faire un petit signe. Ben oui, comme si elle était là. C'est une manière de faire vivre ceux qui ont disparu.
Ça, c'est votre appareil photo.
Ouais. J'avais déjà l'appareil en 90. Et ça, alors ça s'est fait par moi. C'est mon lycée. Et là, un petit coin, une petite brasserie. Ils avaient une excellente tarte au citron, meringue.
Donc là, on voit la photo vraiment de cet endroit précis, dans le café, avec les fauteuils, la table, et à côté, une petite photo, presque une vignette de votre mari. Et ces photos, vous les avez prises quand ?
Il n'y a pas longtemps. Je suis allée faire un pèlerinage dans ce lycée où j'ai passé, je ne sais pas, 25-30 ans. Enfin, bon, j'ai sévi dans ce lycée toute ma carrière. Et...
Ah, vous avez été professeur ?
Oui.
Vous aviez eu envie de retourner dans cet endroit, dans ce lycée où vous avez enseigné ?
J'appelle ça un pèlerinage.
Et donc là, on voit 6 photos encadrées de ce lycée ensoleillé.
Regardez là, quand j'ai fait cours dans ce pavillon, je me vois dans le jardin là, qui était au centre. Dans ce jardin, il y avait des petits pots, des petits cocktails, des fêtes de fin d'année, gna 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 gna. Et les vieux professeurs s'asseyaient vite parce qu'ils étaient fatigués. Et moi, j'étais là sur mes jambes de 30 ans et je me disais... Et maintenant, j'ai besoin de m'asseoir.
Incroyable quand même, le pouvoir évocateur des photos sur notre passé, non, Christine Ulivucci?
Bah oui, là on voit bien en quoi cette femme est accompagnée tout au long de sa vie par des photos, soit qu'on lui a données, soit qu'elle prend elle-même. C'est-à-dire que bon, la photo c'est quand même une preuve d'existence, donc elle en parle d'une certaine manière quand elle dit que voilà, ça garde vivant certains moments de vie, voire certaines personnes.
Mais voilà. Alors comment vous justement en tant que psychanalyste, vous utilisez les photos dans un travail d'introspection psychologique pour les gens qui viennent vous voir, qui ont besoin de comprendre ce qui s'est passé dans leur vie.
Alors il y a deux aspects, c'est-à-dire que voilà, on peut apporter des photos de soi pour voir un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'interaction dans la famille, c'est-à-dire qu'à travers une photo, par exemple une photo de famille, une photo de groupe, on peut assez bien revisiter, comprendre, analyser ce qu'il en est du système familial, c'est-à-dire du fonctionnement et du dysfonctionnement du système familial. Quand on regarde voilà, une photo de groupe, on note les interactions entre les personnes, les gestes, les sourires, les éloignements, les crispations, qui est
des
toujours à côté de
qui. Des choses a priori imperceptibles normalement. Souvent.
Alors, souvent imperceptibble, mais il faut arriver à regarder ces
photos
de famille.
Rien n'est plus banal qu'une photo de famille souvent.
Banal, non, parce que ça va donner une image, alors qui se veut parfois un peu idyllique, mais tout l'intérêt, ça va être d'aller voir derrière cette visibilité de la famille, ce qui se joue quand même de manière inconsciente entre les différents membres. Ça peut être un aspect de ce travail-là. Ça peut être aussi revoir des albums de famille et voir ce qui a été donné à voir, parce que l'album, c'est une construction d'un roman familial. Donc, qu'est-ce que la famille a voulu donner à voir, a voulu transmettre ?
Dans le choix des photos.
Dans le choix des photos, dans le déroulement des photos, dans le fait que certaines personnes sont surreprésentées, d'autres sont sous-représentées. Ça vaut aussi
pour
les...
à des histoires en particulier.
Ah ben bien sûr, il y a des personnes qui s'aperçoivent que voilà, on va leur faire un soi-disant un album de naissance, hein. On démarre souvent des albums au moment des naissances des enfants, et puis elles ne vont apparaître que peut-être à la troisième page de l'album, c'est-à-dire que, voilà, ou certaines qui n'ont aucune photo, par exemple, de naissance, ou aucune qui n'ont pas de photo avec leurs parents. Enfin, on voit aussi ce qu'il manque, parce que c'est souvent la question du manque qui pose problème.
Ça veut dire que parfois, vous voyez des choses incroyable dans ces albums que les personnes qui viennent vous voir n'avaient pas réellement compris.
Bah bien sûr, oui. C'est-à-dire que on peut très bien.
Vous pensez à un patient en particulier ?
Patient en particulier, je dirais plusieurs, mais on peut s'apercevoir de ce qui s'est vraiment joué. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, que le père n'est pas là, n'a pas été mis dans l'album, que certaines personnes ont été rayées de l'album. Hein. On voit aussi des photos découpées
à leurs dépens ou parce que ces personnes ne sont physiquement pas présentes dans l'existence ou...
Ah non, à leurs dépens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne ne cadre plus, je dirais, dans ce que le clan familial a imposé comme norme,
oui,
elle est d'une certaine manière exclue de ce clan. Et ça, c'est très visible dans les photos de famille.
Aujourd'hui, on poste son petit déjeuner sur Instagram. Mmh. Alors, pourquoi réfléchir sur ces photos, finalement ?
Mais alors là, c'est l'acte photographique qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une manière d'être en interaction avec le monde. Et moi, je trouve ça très intéressant, ce qui se passe actuellement avec les smartphones, c'est-à-dire que la photo est devenue un outil de partage, de partage
langage,
avec les autres.
Un autre langage pour parler de soi et parler aux autres.
C'est ça, c'est un langage visuel, hein, puisqu'on envoie une photo de l'endroit où l'on est, mais c'est aussi une photo qui est souvent accompagnée d'une parole. Give me that smile. Oh, baby, come on. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Duh, moi c'est sourire. Well, baby, come on. Que je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smilotech. Avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese. Car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. Je suis un maniaque d'image. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Donne. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Mais c'est ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, 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 fixer l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. Oh. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile.
Smile, hocus pocus, chez 7 milliards de voisins. On parle des photos dans tous leurs états. Nous n'avons jamais autant pris de photos et on les a jamais finalement aussi peu regardées. On regarde des millions de photos qui circulent et qui s'échangent sur nos smartphones. Nous sommes en ligne avec un vrai photographe, un artiste. Bonjour Yannick Folly.
Bonjour.
Vous êtes un jeune photographe béninois, vous êtes à Cotonou, un photographe de cette nouvelle génération sur le continent africain, un photographe qui monte. Alors avant de parler de votre travail de photographe, j'aimerais qu'on parle de vous Yannick, parce que vous êtes devenu photographe précisément parce que vous n'aviez pas de photos de vous enfant.
Oui, je peux dire ça, oui.
C'est-à-dire
C'est vrai, quand j'étais enfant, je n'avais pas de photos de moi comme ça. Et c'est un jour, en discutant avec ma maman, on était en train de fouiller les affaires, que j'ai trouvé une vieille photo. D'abord, elle n'a même pas bien gardé la photo, donc la photo était, comment on appelle, il y avait les cafards qui avaient rongé un peu la photo, tout ça. Et ça m'a fait un truc. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, est-ce que c'est possible que je peux la garder? Et elle m'a dit, oui, tu peux garder ça, d'autant plus que c'est ta photo. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que j'ai eu un choc et c'est fini. Mais le déclic de la photo.
Et pourquoi vous n'aviez pas de photo de vous, finalement?
Peut-être c'est... Je peux dire que c'est peut-être ma maman ne savait pas comment garder ses photos ou elle ne savait pas comment immortaliser ses instants de moi.
Oui, c'était finalement... votre maman n'avait pas perçu l'intérêt, l'apport d'une photo. C'était pas...
De la photo.
Oui, c'est ça. Mais comment vous avez grandi sans réellement savoir quel était votre visage d'enfant aux différents âges de la vie?
D'abord, je suis le seul enfant unique, je suis le seul enfant pour ma maman, et c'est ma maman qui m'a gardé. Je lui dois tout, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas exactement comment elle a pu faire pour que je n'ai pas eu de photos de moi, parce que là, moi, je suis encore enfant, donc je ne sais pas.
Mais par rapport aux autres jeunes de votre génération, oui. Vous avez moins de 30 ans, hein, beaucoup de jeunes de votre génération ont grandi avec des photos d'eux.
Oui, oui. J'en connais des amis qui ont plein de photos.
Vous vous sentiez différent par rapport aux autres?
Non, pas trop. Parce que si ma maman n'a pas pu avoir des photos de moi, c'est que je l'accuse, mais c'est parce qu'elle n'avait pas l'importance de la photographie. Elle ne savait pas comment garder ses photos de moi, peut-être.
Donc, oui. Restez en ligne avec nous, surtout, hein, Yannick Folli, parce qu'on va bien sûr ensuite parler de votre travail de photographe. Christine Olivucci, vous voulez réagir?
Oui, peut-être par rapport à cette absence de photos, parce que j'en parlais jusqu'à maintenant, enfin juste avant plutôt. Moi, il me semble que c'est vraiment cette question de la perte ou du manque, l'acte photographique, la question de la visibilité, hein, du visuel, de quelque chose de tangible. Hein, la photo, c'est quand même quelque chose de tangible, même si elle n'est pas imprimée, permet de, voilà, ça a à voir avec une preuve d'existence, ça a à voir avec s'inscrire quelque part. Donc là, ce que j'entends avec ce photographe, moi j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont dans des processus artistiques. Le processus artistique est un processus de transformation de sa propre histoire et de certains dysfonctionnements. Donc là, pour moi, on pourrait le mettre en lien avec ça, et a priori, bon, je n'ai pas entendu parler du père, mais peut-être que ce photographe qui est un homme, donc voilà, va par le fait de prendre une photo, voilà, transformer ce que sa mère n'a pas pu faire, mais a priori, peut-être, hein, le père n'a pas fait non plus, hein, quelque chose, une visibilité.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
Un auditeur nous appelle de Brazzaville. Bonjour Ravel.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Ravel, vous êtes un peu dans la même situation que Yannick Folli, c'est-à-dire que vous avez grandi, toutes vos photos d'enfance ont été perdues.
Oui, oui, vraiment, je regrette de ne pas avoir mes photos d'enfance, puisque j'ai des frères et des sœurs qui ont leurs photos d'enfance. Et moi, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas mes photos à moi. Et quand j'étais de demander mon papa, il me dit toujours non, tes photos ont été perdues lors de la guerre 98, puisque je suis né en 97.
Et ces photos existaient dans un album?
Oui, oui, oui. Oui, ces photos existaient dans un album. Oui.
Et par rapport à vos frères, vous êtes le seul à ne pas disposer d'aucune photo de vous, de votre enfance?
Oui, parfois je suis un peu jaloux.
Vous êtes jaloux. Vous en voulez à vos parents?
Bien sûr. Pour moi, la photo est un miroir, un rétroviseur qui me permet de voir d'où je viens. Vraiment, ça me fait mal parfois.
Et merci de nous avoir appelé, Ravel. Christine Olivucci.
Oui, par rapport au précédent auditeur qui disait que bon, il est le seul à ne plus avoir ses photos d'enfance. Ça, c'est quelque chose qui arrive hein, dans les personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire que, alors pour d'autres raisons, parce que là, a priori, c'est une perte de photos due à voilà à la guerre, à des déplacements. Il y a des photos qui sont détruites. C'est-à-dire c'est des traces d'existence qui sont détruites. Ça crée quand même un peu comme des trous. Des trous dans la mémoire, des trous, ce qu'on appelle dans le tissage des générations. Voilà. Donc, mais ça peut arriver aussi que dans une fratrie, certains soient plus photographiés que d'autres. Donc là, évidemment, il y a des questions de jalousie qui peuvent intervenir.
C'est une forme de preuve de désamour pour la psychanalyste que vous êtes?
Alors, il faut voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment une question de la reconnaissance parentale qui passerait à travers la photo? Mais parfois, ça vient d'histoires qui sont beaucoup plus complexes. Par exemple, je pense à une personne qui n'a pas eu de photo jusqu'à ses 3 ans. Tout simplement parce que dans l'histoire familiale et avant cette personne, il y avait eu un enfant qui était mort à 3 ans. Donc jusqu'à 3 ans, c'est comme si on ne pouvait pas s'autoriser à marquer l'existence. Pour être sûr qu'un enfant vive, il fallait qu'il dépasse 3 ans. Voilà, donc il y a des cas de figure. C'est au cas par cas, hein, vraiment.
Et ça n'est pas souvent expliqué, finalement, dans les familles.
Ah non, 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 c'est vraiment quand on...
Il y a une forme de non-dit sur les photos, quelque part.
Alors, une forme de non-dit, je dirais, sur les traumatismes familiaux, surtout. Donc, l'absence de photos vient marquer le non-dit.
Yannick Folly, vous vous êtes différencié des autres photographes. Bon, vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'avez quasiment pas de photos de vous enfant, à part une seule photo qui était très, très abîmée. Vous vous êtes différencié sur le continent le plus jeune de la planète, l'Afrique, en consacrant justement une grande part de votre travail à photographier l'enfance.
Les enfants.
C'était une façon de combler un manque que vous aviez vécu.
Exact, oui, c'est ça. C'est une façon pour moi de revivre mon enfance en quelque sorte.
Oui.
Oui.
C'est-à-dire de revivre les petits gestes du quotidien, les expressions des visages. Quoi exactement? Qu'est-ce que vous revivez de vous à travers ce que vous photographiez aujourd'hui?
L'émotion.
Christine Olivucci.
Par la photo, il y a aussi le souci de créer du lien avec les enfants, parce que bon, ce qui a dû être coupé là juste après, c'est que ce photographe revient sûrement dans les familles pour montrer les photos.
Comme beaucoup de photographes d'ailleurs qui ne photographient, qui attendent beaucoup, pas mal de temps avant de déclencher, avant de sortir l'appareil.
C'est ça, alors il y a le fait de jouer avec l'enfant, etc. Bon, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est vraiment là comme une fonction de cet homme qui va être en lien avec des enfants. Voilà, et pour moi, c'est peut-être là qu'il y a eu le manque et pas tant dans l'absence de photos.
Mais qui n'en est qu'une marque. C'est pas si éloigné des psychologues pour enfants qui passent beaucoup de temps à jouer avec les enfants pour comprendre des choses d'eux, non?
Oui.
Christine Olivucci, vous avez des personnes qui viennent vous voir qui ont complètement perdu leurs photos aujourd'hui avec le numérique, qui ont un disque dur qui est tombé en panne, où tout s'est effacé, qui ont peu de photos imprimées sur papier. Est-ce que vous commencez à voir des cas comme ça de...
Alors, peu de photos imprimées sur papier, oui, mais maintenant, en séance, on peut très bien apporter sa tablette ou son smartphone. Donc, on peut regarder les photos aussi hein, sur un support virtuel. Ça, c'est pas un souci. Après, des personnes qui ont tout perdu... Non, quand même, parce que c'est tellement partagé ce que disait une personne que de toute manière, les photos, elles sont. Avant l'album, il était unique. Hein, l'album se consultait en famille, c'était un objet précieux. Maintenant, l'album, les photos, c'est vraiment. Il y a un don d'ubiquité pour les photos.
Et en même temps, paradoxalement, il y a tout de même des enfants qui aujourd'hui n'ont plus d'album. Les tout jeunes enfants, les parents ne vont pas faire d'album. Donc il y a des photos qui sont disséminées sur les réseaux sociaux, sur des téléphones.
qui sont plus ou moins conservées.
Alors, il y a quand même un retour, hein, je constate, avec bon, les personnes que je vois chez les parents, chez les jeunes parents, à reprendre quand même quelque chose de ces albums photos qui ne sont pas faits à la main comme avant, mais qui sont faits directement sur Internet, qui sont commandés. Donc, il y a toujours ce souci quand même de l'objet tangible, parce qu'il y a cet objet que l'on peut recontacter physiquement qui est important.
Et qui est plus facile à partager aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Mais à relire comme un livre d'images.
Yannick Folly, on vous a retrouvé, vous êtes bien en ligne avec nous?
Oui.
Oui. Vous photographiez alors des enfants précisément qui n'ont pas vraiment d'enfance, il faut bien le préciser, parce que ce sont des enfants de classe très modeste, qui parfois ne vont pas à l'école, dont les parents ne sont pas forcément, ne peuvent pas être suffisamment attentifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner avec ces clichés, finalement, avec ces photos?
Oui, je ne photographie pas que seulement les enfants. Je photographie beaucoup de choses. Mais quand je vais dans les villages, c'est-à-dire quand je vais auprès de ces gens, quand je finis de faire des photos, j'attends d'abord et quelques mois après, je retourne vers ces gens-là pour leur donner leurs photos, pour qu'ils aient une idée de leur image.
En Afrique, quand le numérique est apparu, on a beaucoup dit que les photographes qui sont notamment présents dans les événements, que ce soit des conférences, des fêtes de famille, etc., qui développent, vous savez, les photos très vite pour le lendemain et qui les vendent à l'unité, on a beaucoup pensé que ces photographes-là allaient disparaître. Et en réalité, on voit que ça n'est pas le cas. Les gens aiment continuer à acheter des photos sur papier.
Oui, beaucoup aiment avoir leurs photos sur papier. Mais moi, la plupart des photos que je donne à ces gens-là, je ne les vends pas. Oui. Juste pour qu'ils aient une idée de leur image.
Comment est perçu votre travail de photographe artiste?
Je peux dire que je suis photographe comme tout autre photographe. J'essaie juste d'immortaliser l'instant présent des gens. C'est tout.
C'est tout. C'est juste cela.
Oui.
Oui. Et en même temps, quand vous photographiez des enfants, il y a une spécificité, les enfants se comportent différemment face à l'objectif.
Non, vous savez, pour faire une photo à un enfant, il faut d'abord être dans les mêmes conditions que l'enfant. C'est-à-dire, il faut que tu l'amadouilles, il faut que tu essaies de le suivre avec attention avant de faire la photo. Et donc, les enfants ne se comportent pas de la même sorte. Des fois, il y a des photos, avant de prendre ces photos, j'essaie de m'amuser, j'essaie de m'ingénuer comme l'enfant. J'essaie de faire tout ce qu'il fait avant de capter l'image.
Oui, vous rejouez votre enfance, Yannick Folly.
Exact.
Merci en tout cas, vous restez avec nous. Et bien sûr, vous pouvez intervenir jusqu'à la fin de cette émission, Yannick Folly. Dans quelques instants, on va donner la parole à un auditeur. Je le disais, on prend de plus en plus de photos, on les regarde de moins en moins. Alors, que faire de cet océan d'images?
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
Un voisin nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Jérôme.
Bonjour Emmanuel.
Vous voyagez beaucoup, Jérôme?
Oui, évidemment.
Et donc, que se passe-t-il pour les photos?
Bon, les photos, je suis trop attaché à mes photos. Eh bien, par rapport aux photos, je revois mon histoire. Donc, mon histoire est relatée à travers mes photos. Eh bien, c'est pourquoi j'ai d'abord commencé par scanner toutes les photos de mon enfance. Et je les ai mis sur Internet pour que je ne les regarde pas.
Ah
parce
oui.
Que je crains qu'on puisse me développer.
Alors attendez, si je m'ai compris, vous faites le chemin inverse des autres, hein, qui en général développent les photos qu'ils ont dans leur téléphone portable sur papier, parfois, pour les plus importantes de leur vie. Vous avez scanné des photos qui étaient développées sur papier pour conserver votre album de photos d'enfance sur votre téléphone portable, c'est bien ça?
Oui, c'est ce que j'ai préféré.
C'est ça, alors dans votre téléphone, vous avez des photos de vous à 5 ans, à 7 ans
À 3 ans même.
Même avant?
Oui, depuis que ma mère, j'ai eu la chance que ma mère m'a photographié dès le bas d'âge, dès la naissance.
Dès la naissance. Et de temps en temps, ça vous prend comme ça, vous regardez bébé dans votre téléphone?
Oui. Bien, ça me plaît. Je suis ravi de voir comment j'étais tout petit.
D'accord, merci beaucoup Jérôme de nous avoir appelé. Christine Ulivucci, c'est fréquent ça, de se balader avec tout son album photo de sa vie dans son téléphone.
Alors, peut-être pas tout l'album dans le téléphone, mais c'est fréquent. On voit bien même sur des profils Facebook, on peut remettre des photos d'enfance. Parfois le profil passe photo d'enfance, donc c'est une manière de jouer quand même avec son image aussi. Et puis là, de les avoir avec soi. Les avoir avec soi sans les abîmer d'une certaine manière, ces photos. Il y a beaucoup de gens qui refotographient des albums parce que tout simplement l'album il est à un seul endroit, donc au lieu de dupliquer les photos comme on faisait avant, voilà, on va refotographier des photos chez les grands-parents, chez les parents, pour se refaire un album aussi.
Qu'est-ce qu'on comprend finalement quand on travaille sur ses propres photos, sur sa vie?
Déjà, ça permet de revisiter quand même différents épisodes de vie. Ça, c'est la première chose, de réveiller certaines sensations. Et puis, bon, là, moi, je l'utilise dans le sens où c'est aussi un support de parole. C'est un support de... Et cette photo, on est dessus. On est dessus, mais on est aussi distancié. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le présent et dans le passé. Et cette distanciation, quand on fait un travail thérapeutique, il y a une distanciation du passé, mais il faut bien y replonger. Donc là, ça permet de voir avec un peu de distance voilà, où on était à tel moment et ce qui s'est joué.
La photographie aiguë dont nos sociétés sont atteintes aujourd'hui. Certains chercheurs aux États-Unis ont démontré que plus on photographiait des endroits que l'on visitait, par exemple, moins on en conservait la mémoire, paradoxalement. Ils ont comparé avec des gens qui visitent des lieux sans prendre de photos et ils mémorisent mieux les lieux, mieux ce qu'ils ont vu dans un musée, par exemple. Ça vous semble...
Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ce postulat. Le fait de prendre une photo permet, enfin, dans un langage alors là un peu psychanalytique, d'introjecter le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a cet écran devant les yeux que l'on n'est pas en contact avec le monde. Ça permet au contraire d'avoir une forme de médiation par rapport à ce qui est vécu.
De regard. De perdu, finalement.
C'est un regard, c'est son regard personnel, surtout quand on cadre. On cadre, voilà, on est là avec son corps. I remember ghost of Georgia, big trees and lemonade. When I was born on the western portion, my life would never be the same. Make me think about Shy City, two-stepping in the ballroom. Make me think about New York, I had nothing to lose. People off my shoulders, I found the road to freedom. Whatever don't break me down can only make me stronger. If there was nothing to lose, life wouldn't have a meaning. But since you can't break it down, it only makes me stronger. Golly, I started getting organized and realized for real that this is more than rhymes. Instead of liking, I started loving myself more. I'm drinking water and worrying about my health more. I did a lot of growing, a nigga is kinda wise. Starving artists, craft like man personified. I'm an African and not an African, and I know it's baffling, but I got a master plan. Devil off my shoulders, I found the road to freedom. Whatever don't break me down can only make me stronger. If there was nothing to lose, life wouldn't have a meaning. But since you can't break it down, it only makes me stronger. Took a train to Kansas City, black girls in the barbecue. They drove me to the church house, I swear to only tell the truth. Preacher man had a Rolls Royce, preacher wife had a white jacket. Everybody looking real broke, but the music wasn't bad. Devil off my shoulders, I found the road to freedom. Whatever don't break me down can only make me stronger. If there was nothing to lose, life wouldn't have a meaning. But since you can't break it down, it only makes me stronger. Me to Jesus, I forgot. Sédou nous appelle de Ziguinchor, de Casamance au Sénégal. Bonjour Sédou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Casamance et vous souhaitez vous exprimer sur la façon dont on utilise, dont on conserve ou pas d'ailleurs les photos, des photos de famille.
Oui, c'est ça, mais permettez-moi d'abord de commencer par vraiment me féliciter, en tout cas, ou bien rendre hommage à la pellicule, parce que quand on parle de photo, avant l'ère du numérique, c'est d'abord la pellicule.
Oui.
La photo, pour moi, est plus qu'une image. C'est un outil en certaines circonstances. Par exemple, dans une localité comme la Casamance, qui a été un peu meurtrie par des conflits à un certain moment,
oui,
les familles étaient disloquées. Mais certains ont pu retrouver leurs proches grâce à des photos. Donc, c'est émouvant. Et puis, en plus, aussi, la photo, pour moi, c'est le cordon ombilical entre un individu et une époque de sa vie, ou
oui,
bien avec le reste de sa famille. Donc, c'est un témoin du temps. Donc, cause pour laquelle aujourd'hui, la photo, en tout cas, dépasse notre imagination.
Oui.
Moi, j'ai une petite anecdote, par
oui,
exemple, qui porte le nom de ma grand-mère. Un jour, elle me dit, mais papa, à quoi ressemblait ma grand-mère? Et moi, qui ne suis pas fort en portrait, j'étais embarrassé parce que je ne possédais plus la photo de ma,
oui,
de ma grand-mère. Et j'étais complètement déboussolé.
Oui.
Je me disais que si j'avais au moins sa photo.
Donc il fallait la faire revivre, cette grand-mère, par l'intermédiaire de votre voix, de vos récits finalement, du récit familial. Et la photo peut aider à reconstruire le récit familial, d'autant plus dans des régions, comme vous le disiez, qui ont été meurtries par des conflits comme en Casamance. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Sédou. Est-ce que Yannick Folly, vous souhaitez réagir là-dessus?
Michael avait dit, il disait que revoir une photo, pour lui, c'est revivre, c'est-à-dire...
Oui.
Voir ce qui a été fait. Et du coup, je suis du même avis que Michael, parce que moi, je dis, quand tu arrives à immortaliser l'instant présent, c'est bien, c'est une bonne chose.
Immortaliser, ben on va terminer là-dessus. Hein. C'est finalement la fonction des photos. Alors évidemment, immortaliser virtuellement. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, Yannick Folly, vos photos sont à retrouver sur votre site, bien sûr. Le lien est sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Et merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Et merci à vous, Christine Olivucci. Ces photos qui nous parlent, publiées aux éditions Payot Rivage. Merci. Dans quelques instants, merci. Comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne, portrait d'une étudiante congolaise, pas comme les autres.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, aujourd'hui, portrait d'une jeune ambassadrice pour la paix, Noëlla Mouamirisa, 27 ans, elle fait partie du réseau mondial Girl Ambassador for Peace. Elle a grandi en République démocratique du Congo, elle fait actuellement ses études en Californie, aux États-Unis, et elle était de passage à Paris à l'occasion de la conférence Le pouvoir des 4 milliards, organisée début avril par l'OCDE, une conférence pour mettre en avant le pouvoir des femmes et des enfants à changer le monde, eux qui comptent pour plus de 62% de la population mondiale. Alice Milo l'a rencontrée.
I was born in the Congo and specifically on the east part. It's called Sud Kivu.
Je suis née en RDC à l'est du pays, plus particulièrement à Bukavu, dans le Sud Kivu. C'est une région connue parce qu'on y trouve de très jolies choses, mais aussi parce que c'est là que se trouve le cœur de la guerre. Mon père travaillait pour le gouvernement local et ma mère était mère au foyer. On faisait partie de la classe moyenne, donc on avait les moyens de se nourrir et d'aller à l'école.
So I grew up in throughout the war, going to school in war.
Donc j'ai grandi durant la guerre, tout en allant à l'école. Et je me souviens de la première fois où j'ai compris que c'était la guerre. Ce jour-là, on n'a pas pu aller à l'école parce que nous devions partir pour un camp de réfugiés au Rwanda, où j'ai dû rester avec ma famille pendant 2 mois.
Everybody took their clothes, I took my books.
Et je me rappelle que tout le monde a pris des vêtements dans ses bagages. Moi, j'ai pris mes livres pour aller dans le camp de réfugiés. Tout le monde m'a dit, mais tu ne vas pas aller à l'école. Et moi, je croyais qu'il y avait des écoles dans les camps de réfugiés. Mais en fait, non. Et je me suis dit, mais comment je vais survivre sans école? Pour moi, l'école, c'était tout.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
I think I was
Je crois que j'avais 12 ou 13 ans. C'était ma deuxième fois dans un camp de réfugiés. La première fois, j'avais 6 ans. Et dès toute petite, j'adorais l'école parce que j'y apprenais à m'exprimer. Et aussi parce que mes professeurs, en dépit de la guerre, croyaient en nous et nous disaient « Vous réussirez à sauver le monde ». Mon père, dès le plus jeune âge, nous a encouragés à aller à l'école. Souvent, les papas disaient à leurs petites filles qu'elles doivent se marier, mais le mien me disait « Tu peux faire tout ce qu'un homme peut faire ». Et donc à tous ceux qui ont essayé de me freiner dans mes rêves d'enfant, je répondais, mon père m'a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. Qui es-tu toi pour me dire le contraire? Ma mère nous encourageait aussi parce qu'elle vivait ainsi son rêve à travers nous. Elle n'a jamais été à l'école, elle nous disait, tu peux faire mieux que moi. Ce qui est assez rare pour une femme africaine, parce qu'elles encouragent plus souvent leurs filles à prendre le même chemin qu'elles, celui du mariage. Moi, on m'a dit, vas-y, tu pourras choisir ta propre voie. Et donc, j'ai réussi à finir le lycée en RDC en dépit de la guerre, et j'ai obtenu une bourse pour une des plus grandes universités à Séoul, en Corée du Sud. C'est une bourse que j'ai obtenue parce que j'étais très impliquée depuis des années dans l'ONG Search for Common Ground. Ils recrutaient des jeunes pour plaider pour le droit des enfants. C'est la voix des enfants pour les enfants. Nous avons animé un programme radio qui donnait la parole à des enfants soldats de 12 ans. On a réalisé énormément d'interviews à travers le pays pour collecter leurs histoires et les diffuser à la radio. La plupart d'entre eux étaient vraiment traumatisés. Ils nous ont raconté leurs histoires. Ils étaient obligés de tuer, d'être violés. Notre travail était de faire prendre conscience à la société que ces enfants en font partie et qu'ils ont besoin d'aller à l'école. J'ai donc fini mes études en Corée du Sud, j'avais 21 ans. Et j'avais en tête que j'allais changer la RDC et le gouvernement. Mais bon, il y a toujours des obstacles. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai été arrêtée à la frontière. Les gardes voulaient savoir ce que je faisais là, parce que là-bas, il y a beaucoup de conflits entre différentes tribus, et ils te regardent tous avec méfiance et pensent que tu ne viens pas d'ici. J'ai eu très peur, parce qu'en tant que femme, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. J'aurais pu être violée. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Ça a blessé ma dignité parce que personne n'a envie de quitter son pays et de devenir un émigré et un réfugié. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois en sécurité avant de revenir. Aux États-Unis, j'ai continué à m'impliquer pour aider des jeunes filles congolaises à aller à l'école. Je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément besoin d'être sur place pour aider. Je pense à la génération future et je ne veux pas que mes enfants pensent que les États-Unis et l'Europe sont un rêve en soi. Je veux qu'ils se construisent leur propre rêve. Et donc, quand j'ai immigré aux États-Unis avec d'autres jeunes émigrés, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a monté une association et chaque année, on organisait des événements pour collecter des fonds, comme des spectacles de danse, de chant, où chacun montre son talent. Et les gens nous donnaient de l'argent parce qu'on leur expliquait que notre objectif était d'envoyer les enfants du Kivu à l'école.
Vous savez combien d'enfants vous avez aidés comme ça?
12 petites filles. Nous avons payé leurs frais de scolarisation, mais aussi leurs livres scolaires.
Et donc vous envisagez de retourner en RDC alors?
That's my dream in the long term. I want to be able to return when it's safe.
C'est mon rêve à long terme. Je veux pouvoir retourner là-bas quand ce sera plus sûr. Ça avait du sens de partir. Ça a encore plus de sens de revenir, de rentrer.
Et votre famille vit toujours à l'est du Kivu?
My family lives in the Congo.
Oui, ils vivent toujours au Kivu. Je suis très inquiète parce que parfois tu te réveilles et on t'annonce au téléphone que ton oncle a été tué. Et puis ton cousin. Récemment, mon village a été brûlé. Les différentes tribus sont toujours en train de s'affronter.
Vous avez quel âge?
27 ans. Et c'est sûr qu'à 27 ans, j'aimerais bien avoir les préoccupations de mon âge plutôt que de m'occuper de justice, mais c'est comme ça. Et j'espère que la génération suivante n'aura pas à s'en soucier.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les fratries disloquées. Quand la famille explose, il arrive que les enfants soient séparés. En France, une loi prévoit la protection du lien fraternel en cas de placement des enfants, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Avec nos invités, avocats, ONG, sociologues, on va voir pourquoi il est nécessaire de laisser les enfants grandir avec leurs frères et sœurs, même si les parents sont absents, et sinon comment on peut préserver le lien quand les fratries sont disloquées. À demain les voisins et les voisines.